On prie le Seigneur, on demande à Dieu de bénir maintenant sa parole au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments d'adoration, ces moments où nous sommes dans ta présence. Je te prie Seigneur afin que tu puisses te manifester ce matin au milieu de nous, que ton bon esprit Seigneur soit sur nous, qu'on puisse ressentir ta grâce, ressentir ton amour notre Dieu, notre Père, et que tu puisses faire du bien au cœur ce matin, que les cœurs soient bénis, soient nourris, encouragés par ta grâce et par la puissance de ton esprit. Bénis également les enfants à l'école du dimanche, fais-leur du bien, qu'il y ait aussi une onction sur leur vie, qu'ils soient renouvelés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelques jours de ça, à la maison, vous savez, j'habite la résidence du paradis, ça ne s'invente pas. Et dans ma résidence, j'ai une petite mimine, mon chat, Lila, et il y a un tigre dans cette résidence, un gros chat roux, et il persécute ma mimine. Mais vraiment, et il y a quelques jours, il l'a attrapé, et il a vraiment... C'est une fille, alors elle est moins forte. Et lui, elle a 8 ans, lui il est... Non mais... Y a pas... Oh, les féministes, là, calmez-vous. J'ai rien dit de mal. Ça va. Si vous voulez, on fait un bras de fer, je vous prouve que physiquement... Après, le reste, je ne dis pas, mais... Et le chat roux, en plus, c'est jeune et vigoureux. Alors, dès que je fais... Tchou, il traverse le jardin, il fonce, il bondit, il est vraiment vigoureux. Donc, elle fait pas le poids, quoi. Et j'ai vu, pendant plusieurs jours, elle était traumatisée. Elle n'osait plus sortir, j'arrivais plus à la prendre dans mes bras. Elle avait perdu confiance dans le monde qui l'entourait parce qu'elle avait vécu un trauma, un choc. Et je me suis dit, mais alors là, ça va mieux. Depuis hier soir, ça va mieux. Elle s'est détendue quand le chat n'était pas là. Le tigre était sans doute rentré chez lui. Et donc, elle a repris confiance. Elle va mieux. Et priez... Non. Mais ça m'a fait penser à ce que nous pouvons vivre nous aussi parfois. Vous savez, on fait une chute de vélo, on a un accident de voiture, on ne remonte plus en vélo, on ne fait plus de voiture. Les traumas qu'on peut vivre, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans la vie plus adulte, on peut avoir beaucoup de pertes de confiance dans l'adulte. Combien de gens disent « moi j'ai confiance en Dieu, mais à l'église, c'est pas la peine hein. ». Pourquoi ? Parce qu'on a vécu des déceptions, parce qu'on a... On a été déçus par les uns les autres. Et donc, on a besoin de restauration. On a besoin de retrouver confiance. On a besoin de retrouver confiance en la vie, parfois même dans le Seigneur. Je crois que certains ont même, mais c'est faux, hein, mais sont même déçus de Dieu, parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières, parce que... On a pensé que Dieu allait faire comme ça et que Dieu n'a pas fait comme ça. Et alors on est déçu, on est choqué, on remet tout en question. J'aimerais dire ce matin que Satan est un agresseur. Il est violent, il est dur et cruel. Et quand Jésus est venu sur la terre, l'apôtre Pierre résume très bien sa mission dans les Actes des Apôtres. Il est venu pour délivrer, guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire, la domination du diable. Jésus dira concernant Satan qu'il est un voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Détruire. Il est véritablement un destructeur. C'est lui qui bien souvent est à l'origine de drame. Et le mot destruction ou détruire en grec signifie plus exactement périr, perdre, tuer, verser le sang, faire mourir, disparaître, démolir entièrement, abolir, mettre en ruine. Jeudi soir, j'ai eu une parole dans mon cœur et je voyais comme des bien-aimés qui étaient sur un champ de ruines et qui pleuraient les ruines de leur vie. Ça veut dire aussi rendre inutile. Combien de bien-aimés, de gens se sentent inutiles, stériles, ont le sentiment que leur vie ne sert à rien. Ils ne trouvent pas le sens réel de leur vie. Pourtant, nous avons tous été créés dans un but bien déterminé. Et notre vie, elle compte vraiment. Même si parfois on a le sentiment que nous sommes inutiles. Vous savez, Jésus a dit, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Mais il n'est pas dit que nous le sommes vraiment. Je crois que le Seigneur a besoin de toi. Je crois que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Détruire, ça veut dire également déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. Nous ne le réalisons peut-être pas, mais Satan fait de nous sa cible pour nous détruire, nous faire du mal, nous ruiner, nous amener à la mort, vouer encore à la misère éternelle en enfer. C'est ce que Satan veut faire. Vous savez, Satan est un leader. Ne serait-ce que quand il est tombé du ciel, qu'il a été précipité par Dieu à cause de sa rébellion, la Bible dit qu'il a quand même entraîné le tiers des anges. Donc il possède une influence spirituelle très forte, très forte. J'ai pris une photo, enfin j'ai pas pris une photo, j'y étais pas. J'ai proposé à l'écran une photo de l'incendie de Chicago qui a eu lieu en 1971. J'étais pas né, certains d'entre vous oui, mais pas moi, même si je commence à prendre de l'âge. Du 8 au 10 octobre, pendant plusieurs jours, cette ville s'est embrasée. Et elle a été détruite, si on peut le mettre à l'écran, par un feu ravageur. 100 000 personnes ont été à la rue et des centaines de personnes ont perdu la vie dans cet incendie ravageur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille de cet incendie, Dwight Moody, qui était un évangéliste international, tenait une réunion. Il a prêché l'évangile et il n'a pas fait l'appel au salut. Et ça a été pour lui un choc, parce qu'après, il n'a plus retrouvé ces gens-là. Et il s'est juré qu'à partir de cette expérience-là, malheureuse, il ferait, après chacune de ses réunions, un appel au salut. Car nos jours sont comptés et on ne sait pas ce qui pourra ou ce qui va nous arriver demain. Je pensais également à cet événement en 2004 du tsunami. Au lendemain de Noël, le 26 décembre, le lendemain de Noël, on passe de la fête, un séisme d'une magnitude de 9,1 au large de l'île de Sumatra a déclenché un tsunami avec des vagues atteignant 17 mètres qui se sont abattues sur les côtes de l'Indonésie, de l'Inde, du Sri Lanka, de la Thaïlande et de 9 autres pays. Ces vagues de la mort ont fait 230 000 victimes en quelques heures. Bien-aimés, ils étaient au bord de la mer, en train pour les touristes de siroter peut-être un Coca-Cola ou un jus quelconque, dans une piscine, ils étaient super bien et ils ne savaient pas que ce jour-là, ils allaient être anéantis et passer l'âme à trépas. Satan est un destructeur. Il détruit des rêves, il détruit des projets, il détruit des relations, il détruit des couples, il détruit des foyers, il élève les enfants contre les parents, il désunit, il brise l'harmonie conjugale. En France aujourd'hui, 50% des mariages environ terminent par un divorce. Ça veut dire 1 sur 2. En moyenne, les hommes divorcent autour de 42 ans contre 44 ans chez les femmes. Et la durée moyenne d'un mariage oscille autour de 15 ans. Là, on parle d'union maritale. Mais en réalité, on ne compte pas tous les gens qui vivent en concubinage, qui se mettent ensemble et qui se séparent. Les principales causes de divorce, de destruction de la cellule familiale, sont l'infidélité conjugale. Et quand je parle d'infidélité conjugale, je ne parle pas dans le monde, mais dans l'Église. J'ai connu des hommes de Dieu, j'ai connu des femmes de Dieu, pour qui tout allait bien, ils servaient le Seigneur, ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Et pour qui, pourquoi, je ne sais pas, le diable s'est infiltré dans leur cœur et ils se sont séparés. Eux aussi s'étaient engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Eux aussi avaient dit un oui, tonitruant et pourtant. Et j'ai assisté des bien-aimés, beaucoup trop. J'ai même baptisé des bien-aimés. J'ai même vu des jeunes filles, des jeunes gars qui s'étaient engagés, qui étaient dans mon groupe d'ados quand moi j'étais jeune pasteur, par exemple. Ça ne dure pas. J'ai connu, encore hier soir, je parlais avec quelqu'un, d'une femme dont le mari est parti avec une autre. Le manque de complicité, on pourrait parler d'incompatibilité de caractère. Comme c'est dur aujourd'hui, ben on se sépare, on quitte. Bien sûr, parfois, j'en suis l'exemple, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger. Moi, mes propres parents ont divorcé, j'avais 4 ans, et je bénis Dieu parce que Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, ils sont remariés tous les deux et ils ont une vie conjugale à la gloire de Dieu. Dieu ne nous bloque pas dans nos histoires d'échecs. Dieu ne nous bloque pas quand on a gâché, quand on n'a pas réussi à faire ce que l'on devait faire et comme on devait le faire. Mais combien de bien-aimés souffrent aujourd'hui et sont brisés dans leur vie conjugale, ont une vie conjugale catastrophique, peut-être à cause de l'addiction à l'alcool ou à toutes sortes de passions qui détruisent l'union et l'harmonie. Satan est un destructeur. Il détruit les couples, il détruit les enfants et il n'attend pas de le faire que les enfants aient grandi. S'il peut, le plus tôt possible, atteindre un enfant, il le fera. Il détruit des cœurs. Il détruit des vies intérieures. David, dans le psaume 34, au verset 19, je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran, mais j'ai prêché ça cet été dans le cadre d'un camp de vacances sur le cœur brisé. Et la Bible dit que David, après avoir tué le géant Goliath, les foules sont en liesse, il est heureux, il est content. Mais rapidement, le vent de la faveur de Dieu va tourner. Il a toujours le vent de la faveur de Dieu, mais les circonstances vont changer. Et là, voici que le roi Saül va commencer à le regarder d'un mauvais œil et commencer à le juger. Psaume 34, s'il vous plaît, verset 19. Et David va exprimer, c'est pas le verset, psaume 34, verset 19. Là, si on peut être réactif, m'aider. Quand David va dire ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » David a le cœur brisé. Pourquoi ? Parce qu'il est déçu. Il est déçu parce qu'il est en train de vivre. Il est passé de l'espoir, de la joie à la déception. Et il va devoir être chassé de là où il est. Et là, il est chez un roi ennemi et il a le cœur brisé, il a le cœur malheureux. Et je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais peut-être qu'en réalité, vous savez, un cœur brisé, on peut le cacher. On peut dire ça va, mais en réalité, au fond de notre cœur, on peut vivre des tourments intérieurs. Il y a des situations qui nous brisent, qui nous cassent, qui ne viennent pas de nous. David est pourchassé par un fou furieux, ses circonstances changent, il est malmené, mais parfois on est brisé à cause des erreurs qu'on a faites, qu'on a commises. Et alors on peut faire ce qu'on veut, mais La seule façon d'être restauré, c'est de nous repentir. Et à un moment donné, dans le psaume 51, au verset 19, la Bible dit que David, là aussi, va prier, il va répandre son cœur. Son cœur est brisé une nouvelle fois. Mais pourquoi ? Parce qu'il a commis l'irréparable. Il a pris la femme d'un autre, il a fait tuer cet Uri le Héthien. C'est irréparable. Les conséquences sont là. Il va devoir faire avec tout le reste de sa vie. Mais Dieu va le guérir. Dieu va le guérir. Psaume 51, verset 19, je vous le lis rapidement. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et là, c'était véritablement l'œuvre de Satan qui agissait dans sa vie. Et Satan est un destructeur. Il détruit la foi. Il a détruit la foi de Ève. Il détruit la confiance que nous pouvons placer en Dieu. J'aime David Wilkerson, qui était un prédicateur qui maintenant est dans la gloire, qui a écrit ceci. « Si tu es chrétien, tu es au beau milieu d'une guerre féroce. En fait, tu es au milieu d'une bataille à mort pour ta foi. » Satan est déterminé à couler et à détruire la foi de tous les élus de Dieu. Plus forte est ta foi, plus son attaque contre elle sera grande. Mais j'aimerais dire ce matin que si Satan détruit, et si Satan t'a détruit, et si Satan a réussi à te faire du mal, j'aimerais dire ce matin que si le voleur vient pour égorger, pour voler, détruire. Jésus a dit, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Et Jésus a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aime ce verset qui dit 1 Pierre 2,25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. J'aime cette expression. Jésus est le pasteur et le gardien de mon âme. Le pasteur est le gardien de ton cœur. Psaume 23, verset 3, vous connaissez très bien ce verset. L'Éternel est notre berger, amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur nous restaure. Et quand on regarde plus précisément cette traduction ou ce mot littéralement, restaurer, c'est retourner ce qui est renversé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre « Un berger médite le psaume 23 ». Eh bien moi, comme je suis un berger, j'ai médité le psaume 23. Et en fait, cet auteur, qui était un vrai pasteur, un vrai berger, raconte que les brebis avaient un problème parfois, c'est qu'elles se renversaient. Lorsque leur poil poussait, qu'elles prenaient un peu d'embonpoint, il leur arrivait que, ou en se détendant, en se couchant sur le côté, que le centre de gravité se déportait et elles pouvaient se renverser comme une tortue et les quatre pattes en l'air. Et là, elles devenaient la proie des prédateurs. Et littéralement, il restaure mon âme, c'est il retourne ce qui est renversé. Il nous remet sur pied. Et il écrit ceci, « J'ai eu dans un troupeau de chevaux une brebis qui se renversait très souvent. » Les quatre pattes en l'air, quoi. « Chaque printemps, lorsqu'elle portait un agneau, elle tombait sur son dos. Tous les deux ou trois jours, seule mon attention lui permit de survivre d'une saison à l'autre. Une année, je dus m'absenter du ranch pour quelques jours. Au moment où elle se trouvait dans cet état, j'appelais mon jeune fils et lui confiais la responsabilité de cette brebis pendant mon absence. S'il a s'arranger pour la maintenir sur pied, jusqu'à ce que je revienne, il serait bien payé de ses efforts. Chaque soir, après l'école, il allait régulièrement dans les champs et relever la vieille brebis afin qu'elle puisse survivre. C'est un vrai travail, mais elle nous en a récompensé en nous donnant une belle paire d'agneaux jumeaux ce printemps-là. Ce n'est pas simplement le berger qui surveille attentivement la brebis tombée, ce sont aussi les prédateurs, busards, vautours, chiens et coyotes, savent tous qu'une brebis, entre guillemets, renversée et sans secours, offerte à la mort et vulnérable aux attaques, c'est un vrai problème pour le berger. Une brebis renversée, une brebis, je dirais, brisée, cassée. Quand le Seigneur nous restaure, c'est pour nous remettre sur pied et nous redonner une vie intérieure harmonieuse et bénie. Alors je dis ce matin que Dieu est capable de restaurer ce que le diable a cassé. Si la vie t'a cassé, si les circonstances t'ont cassé, si les gens t'ont cassé, si le diable t'a cassé, j'aimerais te dire que Jésus est le réparateur des brèches. Il est celui qui peut reconstruire ce qui a été brisé, cassé. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il ne remplace pas ce qui est cassé, il le répare. J'ai aimé cette réflexion. Un jour, on a demandé à un couple qui avait vécu 65 ans de vie conjugale. Bon, il faut s'y prendre tôt. Hein. Et on leur a demandé, mais comment vous avez fait pour vivre 65 ans ensemble ? Et l'épouse a répondu, nous sommes nés à une époque où lorsque quelque chose se casse, on le répare, on ne le jette pas. Aujourd'hui, on zappe vite. On change vite. Dieu ne brise pas le roseau cassé, il le répare. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, il le renflamme. Et Dieu, c'est un art. Il est un artiste. Vous avez remarqué comme Dieu fait bien les choses ? Dieu est capable de prendre les blessures de nos vies, de prendre les cicatrices de nos vies et d'en faire un témoignage à sa gloire. J'aime cette citation que j'ai entendue également il y a quelques années de cela. On est guéri dans les meurtrissures de Jésus, mais on est édifié dans les blessures de nos frères. Je ne sais pas si ça ne vous a pas fait du bien quand vous entendiez quelqu'un vous exprimer un témoignage ou quelque chose dans lequel vous pouviez vous identifier parce que vous disiez « Mais si cette personne a pu traverser cette épreuve comme moi, alors par la grâce de Dieu, si lui a été guéri, si lui s'en est sorti, si lui a pu le faire, alors je peux le faire. » Yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons le faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'art du kintsugi. L'art du kintsugi. L'art du kintsugi, c'est un mot littéralement qui signifie jointure en or en japonais. Le kintsugi permet de restaurer des objets cassés, abîmés, non pas en dissimulant les fêlures, mais en sublimant avec de l'or. Le kintsugi est une ode à l'imperfection et à la fragilité. Vous savez, nous sommes tous fragiles. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, voilà, ça c'est des vases qui ont été brisés, et on ne cherche pas à casser les blessures et les fêlures, mais on les bonifie, on en fait quelque chose de plus beau. Et du coup, le vase a encore plus de valeur. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que dans l'Écriture, la Bible ne cache pas la réalité de ce que les hommes de Dieu étaient. Vous savez, quand on parle de l'apôtre Pierre quand même, l'apôtre Pierre, le prédicateur, celui qui a, par sa prédication, a amené 3000 âmes à la conversion. Une prédication sous l'onction du Saint-Esprit a amené 3000 âmes. Mais ce qu'on oublie, c'est que Pierre, 50 jours avant, c'est frais encore, c'est à peu près 2 mois, pas tout à fait 2 mois plein. C'est-à-dire que Pierre avait des blessures, Pierre a renié. Et vous savez, si on est prêt à se remettre en question, on peut être restauré. J'ai été en Israël et je prie, j'aimerais y retourner en 2024, en octobre ou novembre. Je suis allé, j'ai prêché au groupe avec lequel on était, certains s'en souviendront, j'ai prêché sur cet endroit qu'on appelait la plage de la restauration, on l'a repéré. Et elle s'appelle comme ça, la plage de la restauration. Et là, j'ai prêché sur Pierre. Et pas très loin, juste à côté, c'est là que le Seigneur Jésus dira à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et quelques mètres plus tard, plus loin, au bord de la plage, c'est pas loin, Pierre va être restauré, va être réhabilité après avoir renié le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il avait un cœur bien disposé. Pierre n'était pas parfait. Mais comme vous et moi, on n'est pas parfait, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ? Mais non, en vérité, on est tous des fêlés quelque part. Donc c'est pour ça qu'il est dit, ça ne sert à rien de se juger les uns les autres. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, en blague, je vous fais pas, c'était gentil, faut que je te dise quelque chose. Je dis, sœur, quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu en as trois qui sont pointés vers toi. Jésus disait, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? En réalité, on a tous des choses qu'on doit changer. Et on a tous, si on gratte un peu dans notre histoire, des cicatrices. Mais n'ayons pas peur des cicatrices. Parce que les cicatrices, elles nous rappellent la bonté de Dieu. Elles nous rappellent la grâce de Dieu. Elles nous rappellent l'amour de Dieu. Elles nous rappellent la patience de Dieu. Elles nous rappellent la grâce de Dieu. Alléluia. On peut acclamer Jésus, hein? Il manquait Judas, hélas. Il manquait la présence de Judas parce que Judas n'a pas eu la foi. Et il y a quelque temps de ça, j'ai fait une mission dans le centre de la France et j'ai prêché sur plusieurs choses. Et le Seigneur m'a montré pourquoi Judas s'est pendu. Pourquoi Jésus a dit que c'était le fils de la perdition. Parce que Judas avait justement des problèmes qui n'étaient pas réglés dans sa vie. Et c'est très important, frères et sœurs, de s'il y a dans notre cœur des blessures, des choses qui n'ont pas été réglées, c'est très important de les régler parce que tôt ou tard, les problèmes non réglés peuvent nous éclater à la figure. Et certaines situations non réglées dans notre cœur sont littéralement des bombes à retardement. Alors désamorce, viens auprès du Seigneur, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et le Seigneur te consolera et le Seigneur te relèvera. Amen. Il est dit dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ésaïe 61, verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Même si ton passé est catastrophique, eh bien tu peux par la grâce de Dieu tout recommencer. Je pense à Néhémie qui pleurait sur un champ de ruines. Et il y a un temps pour pleurer, mais la Bible dit qu'à un moment donné il va se lever et cet homme dans sa génération va faire la différence. Par la grâce de Dieu, on peut se tenir au milieu des ruines et petit à petit, avec la grâce du Seigneur, reconstruire et être reconstruit par l'amour de Dieu. Vous savez, le moyen par lequel Dieu veut nous reconstruire ce matin, on peut le mettre à l'écran, psaume 18. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il est dit dans le psaume 18 au verset 8, psaume 18 verset 8, il est écrit ceci, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Amen. Qu'est-ce qui répare notre cœur et notre âme ? C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, c'était les ténèbres sur la surface de la terre, de l'abîme. C'était le chaos, le tohu-bohu. C'était le désordre. Et Dieu, par sa parole, par un mot, Dieu va dire, et la Bible dit, que la lumière va jaillir au milieu des ténèbres. La parole a une puissance pour restaurer nos âmes. Combien d'entre nous, nous n'avons pas été bénis à la lecture de la parole de Dieu ? Combien d'entre nous, nous n'avons pas été bénis à l'écoute de la parole de Dieu ? Et l'homme de Dieu, le centenier romain qui aimait la nation d'Israël puisqu'il avait construit la synagogue, on dira de lui, il aime notre nation. C'était un homme qui aimait les choses de Dieu. Il n'était pas juif, il était romain, mais il aimait les choses de Dieu. Il avait aussi un sens aigu du respect de l'autorité. Il dira, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Ça, c'est le principe de l'autorité spirituelle. Et il va dire à Jésus, et ça c'est très important, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La restauration, la guérison vient lorsque le mot de Dieu est donné. Dans le psaume 107, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Il y a une puissance dans la parole de notre maître. Vous savez, certains disent, lorsque Jésus a dit, c'est pour ça qu'il a identifié quand Lazare était mort. Il a dit, Lazare sort. La Bible dit, et le mort sortit. Il y a dans la parole de Dieu une puissance. Il y a dans la parole de Dieu, il y a dans l'évangile une énergie, une force. Et c'est pour ça que c'est important. Même la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Si nous sommes attentifs, que nous recevons la parole de Dieu avec douceur, si nous sommes bien disposés, cette parole a le pouvoir de transformer nos vies, de faire de nous des nouvelles créatures et de restaurer notre cœur. Amen. Cette parole, elle restaure, elle guérit. Peut-être que tu es cassé. Jésus a dit ceci, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et littéralement, fatigué et chargé, c'est l'idée de quelqu'un qui n'en peut plus, qui est au bout et qui a subi des coups dans la vie, qui a été cassé, brisé. Et Jésus dit « Viens à moi !» Et si tu viens à moi, si tu es cassé, je te donnerai du repos, je te restaurerai. Et Jésus dit également, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, ma parole, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. La parole de Dieu, elle donne le repos, elle guérit ce qui est cassé. Elle est la parole, ce qui donne la vie, ce qui donne l'espoir. Et vous savez, cette parole, lorsqu'on la reçoit, elle nous change, elle nous transforme. J'ai entendu, il y a quelque temps de cela, je me suis retrouvé dans une pastorale avec plusieurs pasteurs. Et j'ai entendu le témoignage du pasteur Christian Cady, c'est un ancien maintenant, qui annonce la parole de Dieu encore. Et quand j'ai entendu son histoire, je me suis dit, waouh, c'est glorieux ce que le Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu peut faire dans une vie. Vous savez, il raconte ceci, j'ai son témoignage ici, il est sur Internet également, il dit ceci, dans son témoignage, je n'ai pas eu le privilège d'être élevé dans un foyer normal. Puisque ma mère était une femme de mauvaise vie, je n'ai pas connu mon père. Plus tard, ma mère s'est mariée à un homme alcoolique. Elle aussi l'était. Cet homme me détestait parce que je n'étais pas son fils. Il manifestait de la haine envers moi en me frappant sauvagement. Un jour, j'avais 5 ans, il m'attacha avec des lanières de cuir à une poutre et me frappa violemment avec une cravache. Une autre fois, il prit un balai et m'en asséna des coups sur la tête jusqu'à m'en faire perdre connaissance. Le cuir chevelu coupé, j'étais tout ensanglanté. Imaginez un enfant. Un soir, je rentrais de l'école, il m'attendait avec un énorme couteau planté sur la table et une corde et il me dit, « Ce soir, je vais te couper la tête. » Dans ce foyer lié par Satan, il a vu, il a entendu des choses abominables, et je ne vais pas en dire plus. Mais pour manger, il raconte qu'il cherchait de la nourriture dans les poubelles et les tas d'ordures. Il était livré à lui-même, les voisins se sont aperçus à un moment donné de ce qui se passait, il a été placé, plus tard il se mariera. Mais ce qui est beau, après un parcours chaotique, son couple était au bord de la rupture. Il va dire ceci après avoir entendu l'évangile, la parole de Dieu. Il dira, ma vie fut transformée. Mon cœur malade, brisé, fut guéri. Mon foyer connut le bonheur et l'équilibre. La violence, la haine sortirent de mon cœur et je recommençai une vie nouvelle. Alléluia. Ce message d'amour de l'Évangile a bouleversé ma vie. Et quand j'ai entendu ce frère partager comment aujourd'hui il sert le Seigneur, quand j'ai vu la fraîcheur qu'il avait, quand j'ai partagé avec son épouse, je me suis dit, mais Seigneur, tu fais vraiment des belles choses. Tu fais vraiment des grandes choses. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu es brisé, tu es cassé. Mais j'aimerais te dire que la parole de Jésus, la parole de Dieu, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et si tu reçois le Seigneur dans ton cœur, si tu lui donnes la place qui lui revient, vous savez, parce que l'Évangile, la parole de Dieu, ça fonctionne quand on la vit réellement. Quand on est sérieux avec Dieu, Jésus, le Seigneur, a dit qu'il honore ce qu'il honore. Et puis, je dirais, il faut placer ta foi dans cette parole. J'imagine Chicago. J'imagine Chicago où toutes ces bordures de plage, ces endroits paradisiaques qui ont été dévastés. Il faut quand même de la foi pour se dire que quelque chose peut renaître ici. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en 2001, les tours effondrées. Mais peut-être que toi aussi, il y a des tours qui se sont effondrées. Il y a peut-être des choses que tu pensais, ça s'est effondré, et tu te dis, mais comment je vais pouvoir reconstruire, comment je vais pouvoir redémarrer? Eh bien, tu as la bonne place. Si ta vie a été ruinée, si ta vie a été cassée, par l'adversaire ou par quoi que ce soit d'autre, tu peux reconstruire par la grâce de Dieu. Tu peux repartir à zéro. Mais il faut le croire. Il faut faire confiance à Dieu. Si Satan a touché ta foi, si tu n'arrives plus à faire confiance à Dieu et même aux hommes, et peut-être même à celui qui te parle, eh bien, demande au Seigneur qu'il guérisse ton cœur pour que tu puisses à nouveau apprendre à lui faire confiance, à placer ta foi en lui. Et je dirais que même si les choses ne sont pas exactement comme avant, je dis que tu peux être restauré, parfaitement guéri et renouvelé par le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer quelques-uns, mais le Seigneur ne guérit pas toujours. Le Seigneur ne délivre pas toujours. Je lisais le témoignage d'une femme qui s'est convertie, elle était handicapée depuis son enfance. Elle s'est convertie, elle a donné son cœur au Seigneur. Son cœur était au Seigneur, mais elle dira, bien que mon corps me limite encore et qu'il est pour moi comme une prison, ça ne m'empêche pas de louer le Seigneur comme Paul et Silas en prison. Souvent, on exalte la foi qui produit le miraculeux, mais on devrait exalter aussi la foi qui nous permet de traverser les vallées les plus profondes de la vie et qui nous permet de tenir bon dans l'adversité. Hébreux 11, 36 dit, « D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Mais leur foi a reçu de la part du Seigneur un bon témoignage. Arrêtons de faire l'éloge du surnaturel, car ça, c'est aussi le surnaturel de Dieu. C'est pas facile en ce moment dans ta vie, c'est pas facile dans ton foyer. Tu as peut-être des blessures dans ton cœur, tu as peut-être des souffrances et des douleurs, mais Dieu peut te donner de traverser tout cela comme un vainqueur, alléluia. Et du milieu des cendres, et au milieu des cendres, je dis, tu peux te redresser, car Dieu est le réparateur réparateur des brèches et il va et il veut te bénir. Alléluia. Rebondis devant les silences, les refus. Rebondis devant les difficultés qui, et les choses qui ne changent pas. Dieu est avec toi. Fais-lui confiance. Ce n'est pas à propos de ce que je sens, ce n'est pas à propos de ce que je vois, ce n'est pas à propos de mes sentiments, de ce que les gens peuvent dire, c'est à propos de ce que Dieu dit de nous. Ne laissons donc pas les sentiments nous dicter ce que nous devons faire ou ce que nous devons croire. Saisissons les promesses de Dieu, proclamons sa victoire sur nos situations et même si les choses ne changent pas en apparence, continuons à louer Dieu parce que Dieu travaille dans les coulisses, Dieu travaille dans l'invisible et la bénédiction de Dieu vient sur ta vie. Alléluia. Ma religion n'est pas la fatalité. Il n'y a rien, moi je ne crois pas à la fatalité. Je crois à la prière. Je crois au jeûne. Je crois à la consécration. Je crois à la proclamation divine. Je crois que si on fait appel à Dieu, Dieu vient. Je crois que quand on déclare Exode 15, 26, quand on déclare Jean 10, 10, quand on déclare les promesses de Dieu, Dieu vient et nous bénit. Amen. Alléluia. Je vais inviter le pianiste à venir sur le devant. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu, frères et sœurs. Quelle que soit ton histoire d'horreur, tu peux en faire, pardonnez-moi pour le rapprochement, un conte de fées. Tu peux tout changer. Quel que soit ton départ, les agressions de l'ennemi, quels que soient les tigres qui sont entrés dans le paradis, quels que soient les chocs et les traumas, quelle que soit la violence, peut-être des mots que tu as entendus, qui te font douter même de ton existence, de tes capacités, de ton identité, quel que soit ce que tu vis et ce que on t'a fait vivre, Dieu veut mettre de l'or là où ça fait mal. Et il veut sublimer tes cicatrices. Ne les cache pas. Tu peux cacher aux hommes, mais offre-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur et le Seigneur te renouvellera, le Seigneur te fortifiera, le Seigneur te fera grâce parce qu'il t'accueille. Il t'accueille tel que tu es et il ne te dédaigne pas, il ne te méprise pas. Il est là ce matin au milieu de nous et je crois qu'il passe dans les rangs. On va fermer les yeux, on va se mettre debout dans la présence de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Et on va dire, Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens restaurer ma vie. Tu sais, Seigneur, ce qui est brisé. Tu sais, Seigneur, ce qui a été brisé dans mon cœur et dans ma vie. Tu sais et tu vois, Seigneur, ces pensées, ces paroles, qui m'assiègent chaque jour, à chaque instant. Mais Seigneur, ce matin, je veux placer ma foi en toi. Et je veux croire, Seigneur, que après ces drames, après ces choses difficiles que j'ai pu vivre ou qu'on a pu me faire vivre, peut-être même c'est des choses que j'ai vécues et qui sont le fait de mes erreurs, de mes mauvais choix, de mon manque de discernement. Et si je suis au milieu des cendres, c'est peut-être que j'y suis pour quelque chose, Seigneur. Et j'aimerais te dire à toi qui es dans cette situation, le Seigneur ne te condamne pas. La Bible dit qu'il est le Dieu de la grâce infinie. Et que là où le péché abondait, la grâce de Dieu surabonde. Pensez à Saul de Tarse qui avait tout gâché, dont la vie était loin d'être agréable au Seigneur. Mais sa grâce va venir le chercher alors que lui ne cherchait pas Jésus, le persécuté. Et cet homme va être mis sur le chemin de la vie éternelle. Il va être restauré. Le Seigneur va le détourner de ses mauvaises voies. Et je prie ce matin, Seigneur, afin que tu bénisses des cœurs, tu bénisses des vies. Peut-être ta vie intérieure est en morceaux. Ta vie intérieure est brisée, cassée. Sache que la volonté de Dieu, c'est de te remettre sur pied. C'est que tu vives l'harmonie intérieure. Que tu sois ce matin par la foi en la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Choub, c'est le même mot que l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Alors que tu vas dans les verts pâturages de sa présence chaque jour, fais confiance que sa parole te restaure. Elle restaure ton âme, elle restaure ta vie intérieure. L'apôtre Paul priait et disait afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit veut fortifier ton homme intérieur. Vous savez, c'est pas une question d'apparence physique. On peut être frêle physiquement et pourtant avoir une vie intérieure très forte, très riche, très, très belle même. Un cœur en bonne santé. David disait encore, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Est-ce que vraiment tu peux dire ce matin, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère? Ou alors, est-ce que tu es agité, tu es inquiet, tu es cassé, tu te laisses faire par les assauts de l'ennemi? Ta vie est un hall de gare, on rentre, on sort facilement. Les murailles n'ont pas été reconstruites, elles sont en ruine comme du temps de Néhémie et tu pleures, ce matin reconstruis les murailles de ta foi. Ne laisse pas Satan détruire ta foi en insinuant toutes sortes de pensées, de doutes mensongères. Fais confiance à Dieu. Il est avec toi, il prend soin de toi. Et Seigneur, je prie ce matin pour chaque bien-aimé dans ce lieu dont la vie a été malmenée. Peut-être que Satan a mis ta vie à feu et à sang, exactement comme il fait dans le monde. Il met le monde à feu et à sang. Il détruit ce que Dieu fait. Mais je proclame dans le nom de Jésus sur cette église la protection divine, la grâce de Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui encourage. Et si tu as été blessé, cassé, comme David dans le psaume 34, tu es déçu. Ou peut-être comme David dans le psaume 51, tu as tout gâché. Sache que Dieu ne te dédaigne pas. Mais Dieu te tend les bras et ce matin, il te dit, reçois ma parole, garde ma parole, médite ma parole, fais comme Marie. La Bible dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur et elle est repassée. Ne te laisse pas voler les promesses de Dieu. Ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a dit. Fais-lui confiance. Il est avec toi. Il te redonnera ce que l'ennemi te vole en ce moment. Il te redonnera la paix et la joie. Il te redonnera ta situation. Peut-être que tu te sens comme Job. Tu comprends rien. Tu es dans le désarroi. Et tu dis, je suis dégoûté de la vie. J'ai plus le goût de vivre. Et le Saint-Esprit te dit ce matin que si tu t'accroches à ma parole, je te restaurerai. Et je te rendrai le double de ce que Satan t'a volé. Oui, tu peux aller spirituellement parlant comme David à Tsiklag. Tu peux aller dans le camp de l'ennemi et reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Arrête de pleurer, il y a un temps pour pleurer. Mais maintenant, il te faut croire. Il te faut aller dans la présence de Dieu, reprendre des forces et du courage. En t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu pour aller de l'avant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie de prendre mes paroles ce matin et de leur donner vie. Qu'elles produisent la vie, Seigneur. Qu'elles produisent l'espérance. Qu'elles produisent la joie. Qu'elles produisent la paix. Qu'elles produisent, Seigneur, la foi dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin ce matin de la grâce de Dieu, je vais t'inviter à lever la main. Même si tu es chrétien depuis 30 ans, vous savez, on peut avoir 30 ans de vie chrétienne et être cassé ici dans ce lieu ce matin. J'aimerais prier avec toi, prier pour toi, afin que, comme Paul disait, je prie afin que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur, esprit, âme et corps. Simplement, tu peux lever la main, je vais prier pour toi. Oui, je vois. Oui, je vois. Je vois. Je vois partout dans ce lieu, je vois. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Je te demande dans le nom de Jésus de poser ta main sur ces cœurs, de poser ta main sur ces vies. Est-ce que, je ne vais pas être trop long, mais est-ce que vous qui avez levé la main, vous voudriez venir sur le devant et je vais prier avec vous de façon plus personnelle. Si tu as levé la main, viens sur le devant. On va prier, on va prendre un temps de prière vraiment pour que le Saint-Esprit ce matin prenne un peu le temps. Le temps pour te bénir, te fortifier. Venez vraiment sur le devant, complètement sur le devant, s'il vous plaît, pour ne pas rester dans l'allée. On va prier dans le Seigneur. Et on va dire, Seigneur, viens guérir mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon âme, guéris mon esprit, Seigneur. Ceux qui sont dans les rangs, vous n'avez pas levé la main, mais vous avez besoin que Dieu touche votre âme, touche votre cœur. Parce que vous voulez un moment de vérité avec Dieu. Vous savez, c'est bon, hein, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et regarde. Jésus disait de Nathanaël, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. C'est bon quand on met les masques à terre. Pendant des mois, on avait des masques. Enlevons les masques, Dieu nous voit derrière nos masques. Dieu aime la vérité et Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Seigneur, Seigneur mon Dieu, nous sommes là réunis. Tu vois ces bien-aimés qui sont là dans ta présence, qui ont mal à l'intérieur, qui vivent des luttes, des combats, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin d'aller en profondeur. Je te prie de faire un travail spirituel, chirurgical. Je te prie, Seigneur, de guérir les plaies. Comme disait Jérémie, pourquoi la plaie de mon peuple, la guérison ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la plaie est toujours là? Seigneur, je te prie que ce matin, la plaie soit guérie, la plaie soit pansée. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, réjouis-toi, réjouis-toi, car Jésus, Dieu, peut te guérir ce matin par le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Alléluia. Et il n'y a que lui qui peut te le dire. Ne pleure plus, ne pleure pas. Seigneur, je te prie que du milieu des cendres, ces bien-aimés reconstruisent leur vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Et on va faire une prière ensemble. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces choses qui sont venues contre moi. Toutes ces choses que j'ai entendues, que j'ai vécues. Que je sois responsable ou pas, peu importe à tes yeux, tu vois mon cœur, Seigneur. Je te prie ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus, Père, de venir me restaurer. Car tu dis dans ta parole, il restaure mon âme. J'ai besoin d'une aide extérieure. J'ai crié à l'aide pendant des années, mais ce matin, j'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, mon Sauveur, viens poser ta main sur mon cœur. Viens poser ta main sur mon âme. Et que tout ce qui me fait mal ce matin soit restauré et guéri dans le nom de Jésus. Commence à prier, à croire. Commence à prier, à croire que Jésus te restaure. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, tu restaures. Oui, tu restaures nos âmes.
Créateur des étoiles.
Jésus, tu es là. Saint-Esprit, guéris les cœurs.
Créateur de la terre.
Transforme les cœurs ce matin.
Mon secours est en toi.
L'ennemi ne jouera plus avec toi.
Je lève les yeux.
Alléluia, Seigneur, je te prie ce matin, afin que tu scelles ce travail spirituel dans les cœurs. Seigneur, merci, parce que notre seul souhait, c'est que les vies soient prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il est important que tu aies une âme en bon état, que les disciples du Seigneur soient en bon état, qui ne se laisse pas corrompre par l'ennemi, corrompre par les influences du monde, tenté par le diable. Oui, Seigneur, je te prie, ne nous induis pas en tentation, mais délivre. Libère ce matin, qu'il y ait un travail de délivrance dans les cœurs. Que la vérité qui rend libre triomphe dans ta vie ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus, sois libéré. que tu sois délivré là instantanément, ou que ce soit dans le futur, que ta foi continue de saisir et de s'appuyer sur Dieu qui ne change pas. Il est avec toi et tôt ou tard, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ?